on nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Quand des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et puis c'est le Canu Info du lundi 25 novembre. À l'international, comme c'est toutes ces dernières semaines, beaucoup encore de sujets, on ne l'a pas fait encore, hein, parler de l'Iran, beaucoup de répression ces derniers jours. On reviendra sur ce qui se passe en Colombie, on reviendra à nouveau sur la situation à Haïti, et on reviendra à nouveau sur la situation à Hong Kong, parce qu'on aime bien ce qui se passe à Hong Kong.
Puis au niveau national, on commencera par un petit tour vers Nantes où on parlera de l'homme convoqué au tribunal pour avoir menacé de s'immoler. Ensuite, on parlera de la grève à Radio France. Puis du premier policier jugé pour violence volontaire. Et enfin, on fera un petit point sur le nouveau moyen de contrôle mis en place par la police.
Et on termine... Et vas-y.
Il nous manque un dernier sujet au national qui est quand même un petit actualité aux lentillères à Dijon.
Et on finira donc au local sur une petite polémique bien de chez nous, hein, bien lyonnaise, avec un syndicat étudiant de droite qui a pondu un tract qui est plus que douteux. Et pour finir, on fera un point sur la grève à la raffinerie de Fezin qui vient de se terminer pour le moment.
Et on commence tout de suite à l'international avec l'Iran.
Ouais, coup d'arrêt brutal en Iran pour le mouvement de contestation iranien qui a débuté le 15 novembre dernier. Les premiers bilans sont vraiment très lourds. On parle de plus de 200 morts, jusqu'à 300 morts, 4000 arrestations et des milliers de blessés, surtout comme le suggère il y a peu l'annonce de l'agence officielle Far News qui déclare la pénurie en réserve de sang pour alimenter les hôpitaux. Malheureusement, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, mis à part quelques zones encore dans le Kurdistan d'Iran et quelques villes majoritairement arabes, la République islamique et son équipage de terreur armée, composé essentiellement des Pasdaran, les gardiens de la révolution, mais aussi des Basiji, les miliciens, et ben ils ont récupéré le contrôle de la plupart des territoires révoltés. Donc pour rappel, c'est dans un contexte de crise économique sévère en Iran, qui est dû surtout à l'embargo, hein, auquel le pays est soumis depuis plusieurs années, mais aussi aux nouvelles sanctions décidées par Trump. Donc dans ce contexte, que l'annonce par le gouvernement du triplement du prix de l'essence, ça nous rappelle quelque chose, hein, par le Haut Conseil de coordination économique, qui représente donc le gouvernement là-bas, a déclenché des manifestations massives dans tout le pays. Alors évidemment, hein, dans un pays où le PIB a chuté de près de 13% en 2 ans, où l'inflation atteint quasiment 36%, cette décision politique et économique affecte directement le pouvoir d'achat des habitants. À la différence de 2009, où il y avait déjà aussi où les classes moyennes étaient descendues dans la rue, mais cette fois-ci pour protester contre les fraudes aux élections, ici, et similairement au mouvement de l'hiver dernier, 2017-2018, ce sont surtout des classes populaires, rejointes par les étudiants, qui ont cette fois manifesté. Les manifs, peu à peu, se sont transformées en émeutes, au cours desquelles des bâtiments officiels ont été incendiés, dont 7 écoles supérieures d'enseignement de la religion, mais aussi une centaine de banques, des dizaines de centres commerciaux, des stations-service. Très vite, le rejet ponctuel contre la hausse de l'essence s'est généralisé dans un rejet général de l'ensemble de la République islamique et de son système, exprimé par tous les manifestants, la critique concernant aussi bien les radicaux que les réformistes, aussi bien le président Hassan Rouhani que le guide suprême Ali Khamenei. Mais sans surprise, très vite, la machine idéologique a fonctionné à plein régime, dénonçant derrière chaque émeutier un complot ourdi par les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. À cela s'est très vite ajoutée la mise en place d'un couvre-feu numérique coupant l'accès à Internet pour plus de 80 millions de personnes. Dans un pays où l'opposition n'existe pas, ni sous la forme de partis, ni sous celle de syndicats, la suppression du seul moyen d'organisation disponible a sérieusement affaibli les manifestants et très vite. Plus, la violence de la répression a mis un terme à ce début de soulèvement et surtout a mis un terme à l'alliance qui paraissait possible et surtout prometteuse entre les insurgés irakiens, libanais, iraniens qui dénonçaient quand même tous les trois les ingérences et l'impérialisme régional grandissant du régime iranien. Bref, désormais, le régime a sonné le début d'une autre période beaucoup plus triste, celle d'une répression très féroce. En effet, déjà sont mis en place des tribunaux révolutionnaires affublés de juges spéciaux qui sont directement aux ordres des directives répressives dictées par le guide suprême. La purge des contestataires a commencé, elle s'annonce terrible. Le régime a déjà désigné une liste de soi-disant leaders et le régime promet, selon la juridiction de la charia, des condamnations à mort. Et soulignons que dans ce contexte, quand même, on pourra déplorer le manque d'information et surtout de solidarité internationale qui a été manifesté.
Et on enchaîne donc avec la Colombie.
Oui, on vous en parlait déjà il y a quelques semaines, hein, de la montée des tensions sociales en Colombie, notamment à travers la mobilisation des étudiants. Eh bien, jeudi dernier, hein, le 21 novembre, la conflictualité sociale s'est étendue à toute la société avec l'organisation d'une grève générale par les principaux syndicats et relayée aussi par les principales organisations politiques d'opposition. Et on a eu lieu donc à on a vu des manifestations massives, hein, dans tout le pays. Alors, une mobilisation dirigée par aucun parti, qui a été lancée en premier lieu contre toute une série de mesures néolibérales réformant le système des retraites et les lois concernant le travail, hein, portées par le président d'extrême droite actuel, Iván Duque. Alors, des réformes qui, comme pour l'Équateur, sont inspirées des préconisations du FMI et reprises alors par un gouvernement et une élite locale. Toutefois, hein, les revendications elles sont si rapidement élargies, hein, comme en Équateur ou au Chili. Hein, donc là, ici, avec des spécificités, notamment la défense de la paix, hein, concernant justement la question du non-respect des accords de paix avec les FARC par le gouvernement actuel et par les nombreux assassinats de leaders sociaux. Hein, depuis justement la signature des accords de paix en 2016, il y a 702 leaders sociaux qui ont été assassinés dans le pays. Et bien sûr, un phénomène qui est très lié aux violences quotidiennes des militaires et de la police colombienne, hein, mais aussi de la corruption et plus généralement de toutes les injustices sociales. Hein. Parce qu'il faut savoir aussi que la Colombie, c'est le pays le plus inégalitaire d'Amérique du Sud avec le Chili. Hein. D'après l'OCDE, il faut en moyenne 11 générations à une famille colombienne pour sortir de la pauvreté aujourd'hui. Alors, la violence, elle y est endémique, hein, d'autant que certains des guérilleros des FARC, enfin de la FARC, ont repris les armes et se disputent les territoires de production de la coca à nouveau avec la guérilla de l'ELN, donc qui est une autre guérilla, et les narcotrafiquants. Alors, Iván Duque, il a tout fait pour saboter le processus de paix qui avait été engagé il y a plusieurs années avec les FARC et a cherché ainsi à jouer sur le même terrain de la lutte contre un ennemi intérieur que, comme l'avait pu faire son prédécesseur Alvaro Uribe. Mais la violence de l'État, elle est devenue insupportable pour trop de Colombiens aujourd'hui, surtout depuis l'assassinat par l'armée de 18 mineurs âgés entre 12 et 17 ans qui avaient été enrôlés de force par les FARC il y a de ça quelques semaines. Alors, Iván Duque avait particulièrement d'ailleurs choqué récemment la population en niant totalement la réalité du drame et la responsabilité de l'État. Hein, interrogé par un journaliste, il aurait répondu « De quoi tu me parles, mon vieux ?» Voilà, un journaliste l'interrogeant là-dessus, il lui répond ça. Bon. Donc, largement remis en cause, hein, l'État ne semble pour le moment vouloir pas changer sa politique et se contente de se lancer dans une escalade répressive. Hein. À Bogota, un couvre-feu a été fixé à partir de 21h depuis jeudi. Et la ville s'est progressivement militarisée avec l'instauration de nombreuses patrouilles de soldats dans les rues. Les ESMAD, donc les forces de police, ont fait honneur à leur traditionnelle réputation de flics ultra-violents. Hein. On compte déjà 3 morts dans les manifestations émeutes, 280 blessés graves, dont un jeune lycéen, actuellement dans le coma après s'être pris un tir de grenade lacrymogène à bout portant, et aussi une jeune femme complètement défigurée par un coup de pied d'un CRS. Pire encore, le gouvernement a visiblement essayé d'effrayer la population avec une manipulation assez énorme. Hein. Dès la première nuit de mobilisation, il y a une série d'actes de vandalisme qui ont touché de nombreux quartiers. Hein, et très vite, c'est les réfugiés vénézuéliens qui ont été mis en cause. Hein, donc des réfugiés qui vivent dans des conditions d'extrême pauvreté et de précarité là-bas. Hein, ils sont abandonnés, mais aussi traqués par l'État. Donc ils ont été mis en cause. Et si dans un premier temps, la population a plutôt paniqué et a commencé à s'armer pour attaquer les Vénézuéliens, rapidement il s'est révélé que beaucoup des vandales avaient été payés par la police pour commettre les dégradations et les vols. Et même que certaines dégradations étaient directement commises par des flics qui en pleine nuit rentrent pour terroriser la population, viennent dans les quartiers et brisent les vitres des bâtiments et des commerces. Donc une machination montée de toutes pièces hein, par le parti au pouvoir et le gouvernement pour discréditer la mobilisation populaire, notamment en agitant, mais comme c'est toujours le cas en Amérique du Sud en fait, et ça a été le cas au Chili, en agitant donc la menace d'un complot de la gauche sud-américaine hein, et d'un complot notamment du Venezuela, puisqu'il est question des migrants vénézuéliens, et ça permet aussi de jouer sur la peur que peut susciter chez la population tous ces migrants. Alors, face à tout cela, les Colombiens, malgré tout, ils font face, ils bravent le couvre-feu, et ils organisent donc de nombreux casseroles. Alors, je parle pas bien espagnol, mais c'est casseroles la sauce, donc c'est les concerts de casseroles. Voilà. Alors, Duque, le président, il a annoncé les premières négociations pour dimanche prochain, hein, sans toutefois avoir réussi à apaiser la colère. Et aujourd'hui se tient encore une grosse journée de mobilisation, donc on attend un peu plus de nouvelles sur ce qui se passe. Hein. Mais il semblerait qu'en tout cas que la Colombie vienne de rejoindre le concert des peuples en soulèvement dans le monde, hein, puis on leur envoie toutes nos solidarités révolutionnaires. Et si vous souhaitez manifester votre soutien au peuple colombien en lutte contre le néolibéralisme et l'impérialisme et à tous les peuples d'Amérique du Sud en lutte, il y a un rassemblement organisé mercredi, place Bellecour, hein, un concert de casseroles à 17h30. Voilà. Et juste pour finir, un dernier point sur l'Amérique du Sud. Donc, quelques nouvelles sur la Bolivie. On en parlait la semaine dernière. Après le coup d'État institutionnel, donc là, la situation s'est encore aggravée. Hein, et le nouveau gouvernement, il semble s'enfoncer dans la dictature. Hein. Le 18, il y a eu un blocage de la raffinerie à San Cata qui a donné lieu à un massacre de la police qui a tiré dans le tas. Hein. On compte au moins 8 personnes mortes. Et lors du cortège funéraire, hein, quelques jours plus tard, la police a gazé et chargé les manifestants, les obligeant à abandonner au moins 2 des cercueils au sol. Et un infirmier ayant soigné des blessés lors de la répression de ce blocage a été arrêté et inculpé pour exercice illégal de la médecine.
Et donc, compromis après la Colombie et la Bolivie, on reparle de Haïti.
Voilà, qui est donc aussi en Amérique du Sud. Donc, ce n'était pas le dernier point sur l'Amérique du Sud. Alors, pour Haïti, pour rappel, donc c'est une ancienne colonie française, hein, une des premières colonies françaises, hein, puisque la France a colonisé ce territoire en 1627. Mais c'est aussi la première république noire indépendante au monde et la première colonie française indépendante. Donc, en 1804, sous Napoléon, qui perd hein, face à l'insurrection haïtienne. Puis, c'est très rapidement devenu le terrain de jeu des États-Unis et des multinationales occidentales en général. Aujourd'hui, Haïti, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Hein, donc, selon l'indice de développement humain, l'IDH, il serait donc 168e sur 189. 6 millions de personnes, c'est-à-dire une personne sur deux, vit avec 2,41 $ par jour, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté à l'échelle internationale, et 2,5 millions, c'est-à-dire 25% de la population, dans une extrême pauvreté, c'est-à-dire moins de 1 $ par jour. Le chômage frôle les 70% et c'est un des pays les plus corrompu au monde. En 2019, le pays a fait face à une dépréciation monétaire très rapide, moins 30%, et couplée à 20% d'inflation. En parallèle, le pouvoir actuel, détenu par Jovenel Moïse, qui est par ailleurs l'ancien PDG d'une très grande entreprise qui s'appelle Agitrans, une entreprise de production et d'exportation de bananes, mais pas uniquement, ultra corrompu, soutenu par les plus riches familles haïtiennes, soutenu bien sûr par les États-Unis et les bailleurs de fonds, a récemment imposé des mesures d'austérité sur dictat du Fonds monétaire international, un grand classique. Depuis le 7 février, un mouvement d'ampleur est en cours à Haïti. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Depuis septembre, on est vraiment sur la phase très haute du mouvement. La majorité des manifestants sont issus des quartiers les plus pauvres, et il y en a énormément. Ce qui a déclenché ce mouvement, qu'on peut très largement considérer comme étant un mouvement insurrectionnel, c'est la publication de rapports de certains magistrats ciblant des hauts responsables qui auraient utilisé frauduleusement pas moins de 3,8 milliards de dollars d'emprunts issus du programme vénézuélien, Petrocaribe, c'est-à-dire une alliance entre le Venezuela et la plupart des pays des Caraïbes qui permet d'acheter à moindre coût le pétrole vénézuélien contre des programmes sociaux. 15 anciens ministres plus le président actuel sont impliqués, ainsi que certaines des entreprises dans lesquelles Moïse Jovenel donc était impliqué. Tout ça couplé à la hausse du coût de la vie, plus les politiques d'austérité comme par exemple la hausse de 50% des prix du carburant en septembre, et vous avez la recette actuelle de l'explosion sociale. Depuis le 7 février, donc ça rigole pas, depuis septembre encore pire, de nombreuses institutions, de très nombreuses maisons ou véhicules bourgeois ont été incendiés, attaqués. Le Sénat a même été attaqué et cramé. Une prison entière a été attaquée, ce qui a permis à ce que tous les prisonniers s'évadent de cette prison. Les affrontements avec la police sont extrêmement violents. Depuis mi-septembre, au moins 42 personnes sont mortes. Et encore, ces chiffres datent de début novembre, dont 19 tués par la police. Sans compter ceux qui meurent dans les hôpitaux, coupé de tout, dans les maternités ou encore dans les prisons où la pénurie fait des ravages. Ça fait à peu près 10 semaines qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'importation de nourriture et il n'y a plus aucune aide humanitaire qui ne peut arriver à Haïti. Donc les seules ONG qui sont à Haïti sont celles qui y étaient déjà auparavant. Les Blancs, bien souvent les plus riches et symboles de l'exploitation historique et toujours très contemporaine, sont bien souvent pris pour cible, à raison d'ailleurs. Alors effectivement, aujourd'hui, on fait tout un foin, nos médias occidentaux font tout un foin de la mort de ce couple de Français tués par balle à Port-au-Prince. Peu après leur arrivée, ils venaient pour adopter un enfant haïtien. Alors certes, c'est très triste, mais Haïti agonise et tout le monde s'en fout, notamment, je l'ai déjà dit, nos médias de masse, hein, inféodés au patronat et au gouvernement. Depuis déjà plusieurs mois, personne ne parle ou presque d'Haïti. Pendant ce temps-là, les États-Unis, tout comme l'Union européenne, dont la France bien sûr, continue de soutenir Jovenel Moïse et sa sanglante répression et commence depuis déjà plusieurs semaines à rapatrier leurs ressortissants. Tout ça, comme d'hab, à des fins purement économiques, donc impérialistes, et laisser et continuer de maintenir dans la merde, la pauvreté la plus totale, la population haïtienne très majoritaire.
Et maintenant, on passe à Hong Kong.
Voilà, juste quelques mots sur les élections à Hong Kong, puisque vous entendez partout qu'elles ont été remportées par une écrasante majorité de pro-démocratie. Mais qui exactement a remporté quoi ? Ben alors, il s'agit en fait l'élection de 452 conseillers de district, qui jusque-là étaient essentiellement pro-Pékin, certes. Et c'est vrai que par rapport aux dernières élections locales de 2015, les pro-démocraties y avaient obtenu une centaine de sièges contre 278 cette fois-ci, et obtenant la majorité dans 17 des 18 districts hongkongais. La participation à ces élections a aussi atteint un record, puisqu'elle a presque doublé depuis 2015, pour atteindre plus de 70%. Mais si les Hongkongais qui demandent justement le suffrage universel pour l'élection de leur chef de l'exécutif, s'ils ne votaient que très peu pour les élections de district jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ces postes n'ont aucun pouvoir. Il s'agit essentiellement de gérer le quotidien de la ville, comme par exemple le ramassage des ordures. Alors pourquoi ce regain d'intérêt ? C'est parce que cette fois, ces élections ont été publicisées par les manifestants comme un référendum qui viserait à exprimer en chiffres le manque de soutien du gouvernement hongkongais par sa population et aussi à prouver qu'il n'existe pas de majorité silencieuse qui désapprouve le mouvement, comme le disent Pékin et Carrie Lam. Pour ça, de nombreux manifestants se sont présentés aux élections, parfois difficilement puisque beaucoup de candidatures ont été refusées et ils se sont présentés contre des candidats pro-Pékin qui n'avaient pas toujours eu d'adversaires aux élections précédentes. Mais ces élections sont surtout symboliques et ne forcent en rien le gouvernement. Pour rappel, l'université polytechnique est toujours occupée, difficilement puisque nous en sommes à plus de 1000 arrestations depuis le début de l'occupation. Aux dernières nouvelles, ils avaient encore l'eau et l'électricité. Des volontaires font passer de la nourriture à l'intérieur et organisent des cantines collectives. Il y a une vraie solidarité entre les manifestants à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. Et c'est peut-être dans cette occupation et cette organisation collective qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment à Hong Kong.
On va écouter maintenant une petite chanson d'Emma Gavidel, qui est un rappeur iranien qui dénonce dans ce morceau de rap les injustices de son pays dans une chanson qui avait été écrite en hommage au début de la révolution syrienne.
خوشتر از جان چه بود جان برود باک مدار غم رفتن چه خوری چون به هزن می آید گاهی بهتره یه حرفایی رو بشنوم یکم به جای این که از مشکلات کشورم بگم گاهی بهتره که بکشم زیر بدهن وقتی دنیا بومیده مثل زیر بقل اون مرد قصده ای که تو مسیر نبرده مثل ماهی های کوچیک اسیر نهنگ اون نهنگی که میگم اسمش جنگ جنگی که نسل ما به خوبی هست
On est toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On a écouté Emma de Gavidel et maintenant on va passer au national avec un petit tour à Nantes.
Oui, puisque jeudi dernier à Nantes, donc un homme qui venait de tenter de retirer de l'argent de son compte n'a pas réussi puisque son compte était bloqué, ce qui signifie certainement qu'il était en grosse difficulté financière et peut-être depuis longtemps. Puisqu'à ce moment, il a menacé publiquement de s'immoler par le feu s'il ne pouvait toujours pas retirer d'argent. L'homme est en fait rentré chez lui, et là, je vous cite Ouest France, les policiers n'ont voulu prendre aucun risque. Qu'est-ce que ça veut dire que les policiers n'ont voulu prendre aucun risque ? Est-ce qu'ils sont allés s'assurer qu'il allait bien et peut-être l'orienter vers un assistant social ? Non, ils sont allés l'interpeller chez lui pour le mettre en garde à vue. Garde à vue à la fin de laquelle il s'est vu notifier une convocation pour menace de destruction de biens par des moyens dangereux. Ce qui veut dire quoi en fait ? Ce qui voudrait dire que notre corps est un bien au même titre que les poubelles brûlées sur lesquelles s'émeuvent les journalistes de BFM. C'est comme si la police détentrice de la seule violence que l'État légitime et encourage était vexée que quelqu'un d'autre qu'elle-même puisse blesser ou tuer, même lorsqu'il s'agit d'une violence exercée contre soi-même. Ou alors c'est simplement que deux immolations en France en un mois, ça aurait fait tâche et que la garde à vue est une façon radicale de l'empêcher. Et d'ailleurs, ça fait tâche, puisque si cet homme n'a pas pu s'immoler, une lycéenne de 18 ans l'a fait aujourd'hui, dans sa salle de classe, en Seine-Saint-Denis, où elle s'est enflammée, puis jetée par la fenêtre. Et on ne sait pas, à l'heure actuelle, les raisons de son acte, mais il est évident que ce n'est pas par la garde à vue qu'on trouvera une solution au désespoir, mais bien en changeant radicalement l'ordre des choses.
On enchaîne avec la grève à Radio France aujourd'hui.
Et assisterions-nous à une épidémie de grève en France avant la journée du 5 décembre ? Après les hospitaliers, les cheminots des technicentres ou les ouvriers de la raffinerie de Fezin dont on parlera tout à l'heure, une importante grève a été organisée aujourd'hui par plusieurs syndicats de Radio France pour dénoncer le plan de réorganisation de l'entreprise qui prévoit la suppression de 299 postes sur 4403 salariés en CDI actuellement, donc ce qui n'est pas négligeable du tout, dont 236 seront ouverts à un plan de départ volontaire. Alors, dans le détail, Sud, la SNJ et la CFDT, ils ont appelé à une grève du 25 au 29 inclus. Et de son côté, la CGT, elle a appelé les salariés à cesser le travail dès le 25 novembre pour une grève illimitée. Et Force Ouvrière et l'UNSA, elles, par contre, ont appelé à une grève qu'aujourd'hui, malheureusement. Donc, ce matin, les programmes à France Inter étaient fortement perturbés, Vous avez laissé place à une simple programmation musicale. Et sur les autres radios du groupe, comme France Culture, etc., les perturbations étaient, elles, un peu moins fortes. Alors, les différents syndicats, par la grève, ils pointent l'affaiblissement chronique des moyens dans les médias publics, parce que derrière ce plan d'austérité, évidemment, se cache une nouvelle fois une restriction budgétaire de la part du gouvernement, de l'ordre, cette fois-ci, de près de 20 millions d'euros, et que la direction donc, se dépêche de traduire en un plan de restructuration et de suppression de postes. Alors, une décision qui peut sembler aberrante quand même, qui est aberrante, alors que les audiences sont juste excellentes depuis quelques années sur les différentes radios du groupe, public. Mais malgré donc les manquements de l'État, la radio, le groupe entend bien financer la transition vers la modernité, entre guillemets, donc c'est-à-dire vers le tout numérique, et ce, quel qu'en soit le prix. Alors par conséquent, si l'État n'est pas là pour assurer le financement derrière, ce sont les salariés qui vont devoir se sacrifier pour payer la transformation du groupe. Sur 3 ans, c'est près de 25 millions d'euros d'économies qui sont prévues sur les charges de personnel. Et tant pis si cela doit impacter sur la qualité de l'information et sur la santé et le bien-être des salariés. Après tout, le profit avant tout. Car depuis quelques années, voire même décennies en fait, les médias publics et toutes les entreprises publiques en général se sont convertis au modèle hégémonique de l'information de masse et marchand, mais très rentable, qui existait déjà chez les médias privés. Bref. Ça fait déjà un moment que la logique mortifère et antidémocratique du marché de l'information s'est mise en place dans les différents médias publics. Alors ça va de pair avec un mode de contrôle et de gestion de la main-d'œuvre journalistique qui est particulièrement coercitif. Outre que le système de production de l'information, il donne que rarement les moyens d'utiliser réellement toutes ses capacités et ses talents ou journalistes ou ses réseaux. L'extrême parce que tu te retrouves après des années d'études à faire un vieux micro-trottoir pour demander à Mémé qu'est-ce qu'elle pense de la météo. Voilà, c'est pas ouf, quoi. Bon, outre ça, l'extrême précarité de la profession, elle apparaît comme un moyen efficace en fait, de mater les velléités de s'élever contre les directions de rédaction, mais aussi contre les propriétaires des médias, et donc de pouvoir changer la manière dont est produite l'info. Ainsi, moi je souhaite, et on souhaite tous, beaucoup de courage aux camarades journalistes et intermittents de Radio France, d'autant plus que les dernières grèves, ces dernières années... dans les médias français ont été particulièrement difficiles et n'ont pas toujours marché. Donc on espère qu'ils vont enfin réussir à inverser la vapeur et aussi on espère que tous ces petits mouvements de grève qui sont en train d'apparaître augurent quelque chose de plus grand pour le mois prochain.
Et vont converger vers le 5, effectivement. Je crois d'ailleurs que c'est dans les petits papiers en ce moment, à Radio France. On enchaîne avec donc le premier policier jugé pour violence volontaire dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes.
Oui, c'est ça. Il a eu lieu jeudi dernier et c'est le premier procès d'un policier depuis le début des Gilets jaunes pour violence volontaire. Le premier donc est le seul, malgré toutes les violences volontaires infligées par les forces de l'ordre et dont de nombreuses preuves existent en vidéo sur Internet. Alors, quelle violence volontaire a commis ce policier ? Est-ce qu'il a volontairement visé la tête d'un militant avec un LBD? Est-ce qu'il a passé à tabac un manifestant immobilisé par ses collègues? Ou alors tiré des lacrymogènes dans une zone fermée d'où les manifestants n'avaient pas d'échappatoire? Ou bien traîné une manifestante par les cheveux? Ou encore matraqué des passants qui ne faisaient rien d'autre que d'être à sa portée? Eh bien non, tout ça ce sont bien des actes commis à plusieurs reprises, mais il ne semble pas suffire pour justifier le motif de violence volontaire. Non, le policier concerné passait en procès pour violence volontaire pour avoir, le 1er mai, jeté un pavé sur des manifestants. Bon alors, c'est pas qu'on veut cracher dans la soupe quand un policier doit rendre compte de ses actes, mais quand même, il s'est passé bien pire pendant le mouvement des Gilets jaunes et on a l'impression que c'est plus le choix de l'arme qu'on lui reproche que sa volonté de blesser. Et tout ça alors que la veille même du procès, un énième Gilet jaune venait de se faire éborgner par un tir de LBD, alors même qu'il était en train de se filmer. La vidéo étant publiée, on le voit clairement en train de discuter tranquillement. Il a porté plainte, mais a refusé d'être entendu par l'IGPN, en qui il n'a pas confiance, et il a déclaré, donc je vous le cite, « Nous n'étions pas grand-chose pour ce gouvernement et ses ministres. Ils achèvent les ouvriers qui, comme moi, veulent juste vivre dignement. Ils m'ont fait taire et m'ont anéanti. » Alors, pour le policier au pavé, 3 mois avec sursis ont été requis contre lui et le rendu n'aura lieu que le 19 décembre. Il faut noter que le policier en question s'est défendu en argumentant qu'il a agi en réaction à la blessure de son supérieur et que cette défense, beaucoup de manifestants ont eu la même. Je vous invite à lire les différents comptes rendus de comparution immédiate qui ont été publiés sous Rébellion tout au long du mouvement des gilets jaunes, pour vous en convaincre. On y trouve en effet des gens qui expliquent avoir réagi violemment par peur pour se défendre de coups ou de tirs de la police ou encore juste après avoir été témoin de la cruauté arbitraire de membres des forces de l'ordre. Pour cela, pour eux, cela n'a pas vraiment servi de circonstances atténuantes. Et on se rappelle que pour Christophe Détinger, ça a été 1 an de prison ferme et plus 18 mois de sursis.
Et tout de suite, on passe à un nouveau moyen de contrôle justement utilisé par la police pour réprimer les manifestants.
Oui, on vient de franchir un pas de plus dans la société de contrôle. D'ici 2024, ce sont 500 comicos qui vont être dotés d'un système d'intrusion de smartphone capable de traiter toutes les données du téléphone en moins de 10 minutes, qu'ils soient cryptés ou non. On a affaire ici à une nouvelle atteinte de la protection de la vie privée, évidemment, qu'on doit petit cadeau à l'entreprise Celebrit, qui propose maintenant au service de police donc un outil technologique qui vise à améliorer, voire à optimiser la criminalisation, le taux de criminalisation des personnes placées en garde à vue par l'infiltration donc numérique de leur portable. Déjà utilisé aujourd'hui dans quelques commissariats pour tests dans le nord de la France, déjà utilisé aussi au cours du G7, ce nouvel instrument vient renforcer les dispositifs de contrôle de notre cher État policier. Si le cybercontrôle ne cesse donc de s'affiner avec le développement de nouvelles technologies répressives, à tous les échelons, à toutes les étapes, prévention algorithmique, profilage, logiciel de reconnaissance faciale, la surveillance numérique ne cesse d'étendre son domaine sur nos vies. La dystopie policière d'une totale visibilité des individus par le décryptage de leur ADN numérique devient de plus en plus réelle, tellement réelle que l'application des principes panoptiques sont maintenant appliquées partout. Ça nous rappelle surtout à nous que les techniques de défense numérique et les détournements des technologies à notre service deviennent de plus en plus indispensables et urgentes pour nous protéger.
On passe au local avec... pas sur le conduc.
Une dernière petite info de dernière minute en fait. Alors je ne sais pas si vous connaissez à Dijon, donc ville à 2 heures de Lyon, au nord de Lyon. Ça fait presque plus d'une décennie qu'il y a une ZAD qui existe contre un projet d'éco-quartier que la mairie a essayé de construire en périphérie de la ville. Eh bien, l'urbanisation donc, du quartier des Lantières a été abandonnée. Hein. Normalement, le maire de Dijon, François Rebsamen, est censé l'annoncer ce soir lors d'un conseil municipal. Et on se retrouve avec une situation semblable à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on a une victoire donc, des opposants et des membres de la ZAD des Lantières. Mais le maire menace aussi, va probablement annoncer dans le même moment que les occupations illégales vont être expulsées, donc que la ZAD va être expulsée. Et donc on vous invite tous, camarades lyonnais, à être vigilants et à vous préparer à monter à Dijon.
Encore un maire socialiste, hein, finalement. On enchaîne donc ce coup-ci pour de bon au local avec non pas une blague mais un tract de l'UNI. Vous savez l'UNI, un syndicat de droite extrême.
Non, en tout cas, si, oui, mais qualifier ça de trad, c'est compliqué, ou peut-être une blague de très très mauvais goût, en tout cas. Mais donc, depuis quelques jours, donc l'UNI, donc, qui est censé s'appeler, parce que j'ai découvert l'Union Internationale. L'Union Nationale Interuniversitaire. Ou ouais. Maintenant, qui se font appeler carrément UNI, la droite universitaire. Donc, au moins, ils le disent dès le début. Et donc, il y a un syndicat étudiant qui refuse le terme de syndicat parce que trop connoté gauchiste, distribue leur nouvelle propagande et qui une fois de plus s'illustre par leur très mauvais goût et leur tendance de plus en plus facho. Donc pour vous à décrire assez rapidement, sur la première page en fait on peut voir le nom de l'université, on voit une sorte de victoire, une sorte d'annonce de la victoire de leur part, où ils expliquent que l'université de Jean Moulin va disparaître et que va être fondue dans l'université de Lyon, et donc dans tout ce qui a été dénoncé sur cette antenne de très très nombreuses fois, avec justement dans cette évolution de l'université française qui va devenir de plus en plus indépendante localement et qui va se privatiser petit à petit. Et de l'autre côté, ils annoncent leur programme politique. Alors leur programme politique, bon, pour résumer le niveau quand même des personnes, elle tient en 5 images, parce que en fait ils n'arrivent pas à écrire plus, et ça se limite donc d'un côté on a avec l'UNI c'est moins de, je cite, d'écriture inclusive et d'assemblée générale, et en dessous avec l'UNI c'est plus de saucisson, de vin rouge et de baguette. Donc voilà le résumé d'un syndicat, d'un
c'est
gros.
C'est ça qui manque pour avoir plus de gens en AG en fait. Hein.
Bah possible.
Des baguettes.
Puis ouais. J'aimerais bien voir comment en plus une association ou puis un conseil d'entreprise ou un conseil d'université peut se dérouler sans assemblée générale. Ça peut être très très drôle aussi. Le 440 qui fait pas d'AG, ça pourrait être comique aussi, mais bon, c'est pas grave.
Pas tout à fait les mêmes AG, mais bon.
Mais ça reste des AG, mais ça reste des AG, cette pratique qui est bien pratique et partagée par tous. Et donc il conclut pour en se défendant d'être le groupuscule en tout cas qui défend la droite dans l'université, lutte contre les blocages et dénonce le communautarisme. Donc pour en fait un peu resituer quand même dans l'histoire qui sont ces gens, mais c'est quand même un syndicat qui a été créé en 69, donc après tous les événements de mai 68, en réaction justement par la droite et l'extrême droite gaulliste de l'époque, et notamment par Jacques Faucard, qui est un des maîtres à penser de la France-Afrique, qui a été après ce syndicat, donc a continué à se développer, a été soutenu par tous les présidents de droite, et notamment Valéry Giscard d'Estaing qui l'a vraiment développé pour lutter contre la gauche et l'extrême gauche au sein de l'université française, et qui c'est un syndicat qui historiquement a continué à s'allier donc avec la droite, mais surtout très très souvent avec l'extrême droite, avec notamment un certain nombre de leurs présidents et de leurs membres qui étaient des élus ou des membres reconnus du ce qui est maintenant le Rassemblement National ou du GUD, autre syndicat de droite et d'extrême droite même, pardon. Et ainsi, donc, comme leurs grands frères les Républicains, ce groupuscule de droite a bien pris le tournant de l'extrême droite et maintenant ne s'en cache même plus.
Oui, d'ailleurs, ils font exactement comme Génération Identitaire ou le Bloc Identitaire, hein, faire des soupes populaires, mais avec du porc dedans et puis du vin. C'est donc typiquement un truc d'extrême droite. Bon, en tout cas, on continue avec Fezzin. Donc, la grève, vous avez forcément un peu entendu parler de cette grève. Donc, Fezzin, la raffinerie, j'entends. Hein. Jeudi dernier, on était au 47e jour de grève, reconductible, c'est énorme. C'est contre la suppression de 7 postes au sein d'une unité de raffinage de la plateforme. Ça, c'est quand même de la solidarité. Ça, je trouve que c'est classe. 47 jours de grève pour sauver 7 postes. Alors, jeudi dernier, donc, un comité social d'entreprise s'est tenu sans forcément trouver un accord entre la direction et la CGT qui mène la danse là-dedans. La direction a lâché donc la création d'un poste d'opérateur de jour, des mesures d'accompagnement des opérateurs concernés par l'arrêt de l'unité visso-réducteur, vous non plus, vous ne savez pas, moi non plus, hein, mais c'est donc une unité de raffinage de la plateforme, et l'ouverture de négociations sur les conditions de travail de certaines activités de la plateforme. Bon, la CGT, pas dupe, qui mène la danse, a considéré que c'était insuffisant et qu'elle souhaitait préserver au moins 2 postes supplémentaires, plus batailler sur la prise en compte de la souffrance au travail. Un petit exemple, le dépassement des heures travaillées qui cumulées atteignent 154 jours en seulement 7 mois de janvier à juillet. Cette grève, alors, est certes ces jours-ci sur sa fin, mais la CGT appelle d'ores et déjà au 5 décembre à l'Art Conductible. D'ailleurs, de manière générale, à l'échelon national, 3 syndicats sur 5 appellent à la grève le 5, et certains, comme la CGT de Fezin, appellent à l'Art Conductible. Ce n'est pas encore le cas à l'échelle nationale, mais on espère que cette base très combative, ultra combative, va favoriser des grèves dans les raffineries, car on le sait, quand il y a des grèves reconductibles dans les raffineries, ça sent la pénurie d'essence et ça sent bon.
On a le temps de finir tranquillement avec un agenda ?
Demain, mardi 26 novembre, une manifestation à 14h pour protester contre la précarité étudiante, et d'ailleurs pas que étudiante. Donc rendez-vous à 14h rue de l'Université devant la fac de Lyon 2, quai.
Et si vous voulez, le matin, à partir de 5h30, vous pouvez venir bloquer votre fac, vu qu'ils l'ont annoncé sur tous les réseaux sociaux, on se permet de le relayer aussi. Voilà.
On peut venir bloquer la fac à 5h du matin. Le soir, on aura à 19h une soirée de soutien à l'auto-école buissonnière à l'Amicale du Futur, avec un petit tournoi de Mario Kart qui sera suivi d'un repas. Mercredi 27, le collectif Nos Retraites propose des formations débat, enfin là une formation débat sur la réforme des retraites de Macron. Donc ça c'est à 19h30, donc mercredi à la Bourse du Travail. Et enfin jeudi, le 28, une autre manifestation, donc une semaine, un début de semaine qui s'annonce quand même chargé. Manifestation cette fois-ci contre la fin de l'hébergement d'urgence dans le Rhône, situation qui devient vraiment catastrophique, avec deux rendez-vous, un premier rendez-vous à 14h, 20 rue du Lac, puis un autre rassemblement qui aura lieu à 16h devant la préfecture.
Et samedi, de source sûre, il y aura une nouvelle manifestation organisée par les Kurdes pour le Rojava, puisque la situation est toujours dramatique pour les populations du Rojava, pour la population du Rojava. L'heure, vous irez voir sur Rébellion, car Rébellion donne beaucoup d'informations, notamment sur ce type de manifestation. Et on le dit déjà, mais on le répétera bien bien fort la semaine prochaine, le 5 décembre, c'est la grève reconductible. Alors, il y a évidemment un appel à 10h30 à la manufacture des tabacs, mais en amont, il y a aussi un appel d'un groupe Gilets jaunes qui, donc, appelle à venir pour une action dès 7h du matin à l'IUT Fessines, donc au niveau de l'arrêt de tram, pour ensuite partir en action, puis ensuite rejoindre la manifestation. Et la suite, on verra.
Vous venez d'écouter le Canu Info du lundi. On vous retrouve la semaine prochaine et restez à l'antenne dans un quart d'heure. Vous allez retrouver Blasphème FM.
Un homme bon, il n'appartient qu'à moi de le choisir. Si je veux faire preuve de les raisons, l'humilité doit me conduire. Je m'appartiens sur le sol, bien que j'aurai tout au long de ma vie. Et si demain je me sens bien, c'est parce que je l'ai choisi. Tu es le seul maître de toi-même. À toi de décider la nature de ce que tu sais. Ton identité, c'est ton emblème, c'est ta fleur. Peu importe ce que l'on te fait croire, tu peux choisir sans hésiter qui tu veux être. Peu leur importe ce que tu veux, peu leur importe ton histoire. Tu n'as pas à te justifier car c'est là ta place, celle où tu veux demeurer.
Yes, Radio Canu 102.2. Alors on s'est écouté Christophe Rigaud, Cedar River. Ensuite Ailil, Love is my religion. Et enfin Wailing Trees, Selon ma nature. Big up à tous les auditeurs, big respects.
Vous écoutez Radio Canu sur 102.2.
Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront